c'est qu'on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, notre société, les gens qui sont au pouvoir, alors pouvoir politique, médiatique, économique, intellectuel, etc., manipulent les foules. D'ailleurs, cette manipulation, elle est très présente, et je pense qu'il n'y a aucune divergence. Nous sommes manipulés dans notre consommation, n'est-ce pas ? On n'est pas libre dans les choix, dans le choix de nos aliments, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains facteurs créés par la société de consommation et qui parfois sont inconscients. Ils poussent les consommateurs à surconsommer. Et c'est le fameux marketing, puisque marketing c'est l'étude des comportements, le comportement des consommateurs, afin de répondre à leurs besoins, ou plus vicieux que ça, afin de créer des besoins. C'est pas simplement de répondre à leurs besoins, mais aussi de créer des besoins. Et un professeur de marketing dans une université réputée aux États-Unis, dans une de ses études, nous dit, selon lui, il y aurait deux grands facteurs qui influencent ou qui agissent à notre insu dans notre consommation, dans nos choix alimentaires. Il dit, c'est l'ambiance dans laquelle nous mangeons et également la présentation des aliments. Il donne des exemples. Il dit, par exemple, l'ambiance dans les rayons de magasins ou dans les restaurants, la musique qui va être produite va être étudiée pour pousser les consommateurs à consommer. La vitesse, le rythme de la musique. Plus c'est rapide, moins c'est rapide. Bref, ça a un impact sur le consommateur. Il n'en est pas conscient, mais cette musique va le pousser à plus consommer ou à moins consommer un aliment. Également, il dit l'éclairage. L'éclairage a également une influence sur le consommateur. Également, le fait qu'il mange seul ou en groupe. C'est pas pareil. Quand il parle de la présentation des aliments, il dit avoir mené plusieurs expériences, notamment une expérience assez étrange qu'il a menée sur 80 personnes, des universitaires et des étudiants, tous dans le même domaine, le domaine de la gastronomie ou de la nutrition, donc des gens qui sont avertis, donc qui savent normalement les arnaques, la manipulation. Il est un jour invité à une ice cream party et il a distribué de manière aléatoire des coupes. Certaines pouvaient contenir d'une contenance d'un demi-litre et d'autres d'une contenance d'un litre. Et il a également distribué de manière aléatoire des cuillères, des petites et des grandes. Il a remarqué que ceux qui s'étaient dotés d'une petite cuillère, qui s'étaient servis dans des coupes d'un litre, ceux qui s'étaient, excusez-moi, servis avec des grandes cuillères dans des bols ou dans des coupes de un litre, avaient manger une quantité de glace 57 fois plus, excusez-moi, pas 57 fois plus, c'est-à-dire que la quantité était 57, je veux dire par pourcentage, 57% en plus que ceux qui s'étaient servis dans une coupe plus petite, d'une contenance plus petite, et avec des petites cuillères. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils sont arrivés à satiété, mais ils voulaient terminer leur bol, n'est-ce pas ? Il s'était servi plus que les autres. Et il donne beaucoup d'exemples. Il dit par exemple, le fait, il a mené cette expérience aussi, il a donné des M&M's avec 7 couleurs différentes à un groupe de personnes. Et plus tard, il aura donné également les mêmes M&M's, c'est-à-dire le même goût, mais avec 10 couleurs différentes. Il a remarqué que la deuxième fois, quand il y avait des couleurs plus variés que la première fois, ils ont consommé plus parce qu'ils étaient attirés par la couleur. Il fallait qu'ils goûtent de chaque couleur. Également, il nous dit qu'il avait posé sur un bureau dans une entreprise un bocal transparent avec des bonbons. Et une autre fois, il avait posé le même bocal avec les mêmes bonbons, mais dans un bocal opaque. Il a remarqué qu'il s'était servi 710 fois plus les employés dans ce bocal transparent que dans le bocal opaque. Donc, on est manipulé dans quoi ? Dans nos choix alimentaires. Et c'est la même manipulation, non plus dans nos choix alimentaires, mais dans le choix de quoi dans notre rapport non plus à l'aliment, mais dans notre rapport à l'humain. On est aussi manipulé par l'ambiance qui est créée, l'atmosphère qui règne dans la société, et également comment sont présentés les gens avec qui ou parmi qui nous vivons. Donc, il y a manipulation au niveau alimentaire, et évidemment, parce que c'est encore plus grave et encore plus crucial, de quoi de manipuler les gens dans leurs relations humaines, afin qu'ils détestent certaines personnes et qu'ils aiment d'autres, et ainsi de suite. Donc ça, c'était l'introduction. Après la pause, on va entrer dans le vif du sujet et on va analyser l'islamophobie, en retenant bien que il faut, en analysant ce phénomène, l'analyser de manière objective, pas de manière passionnelle, et reconnaître que on est manipulé dans nos relations humaines, dans le rapport que nous avons avec les gens.
Voilà, Klaus Kautman, comme tu viens de le dire à l'instant, on va marquer une petite pause et puis on retrouve nos auditeurs et nos auditrices d'ici 5 minutes. Voilà, Klaus Kautman. Salam alaikum, vous êtes de retour sur les ondes de Pastel FM, 99.4, il est 20h passé de 39 minutes, en compagnie de Issa, la technique, et Othman Ikusa, notre invité.
Oui, on m'excusera, j'ai coupé très brusquement l'arrestation d'Abd al-Bassad, hein, donc on m'excuserait, auditeur, auditrice, pour cette indélicatesse.
Je rappelle le numéro de téléphone pour les éventuelles plaintes.
Hein. Oui.
03 20 73 59 00. Donc voilà, 03 20 73 59 00. Si vous désirez intervenir, poser des questions, n'hésitez pas. Othman, nous te redonnons la parole juste après ton introduction.
On reprend. Je rappelle juste les deux points sur lesquels on s'est mis d'accord et sur lesquels on a insisté, c'est qu'on va aborder le thème de l'islamophobie de manière non pas passionnelle, mais rationnelle, de manière juste. Et on s'est mis d'accord que notre société, certaines personnes mal intentionnées, malhonnêtes, manipulent les foules, parce que ça va dans leurs intérêts. Ce phénomène de manipulation, il ne date pas d'aujourd'hui. Il nous est rapporté dans le Coran, c'est-à-dire dans l'histoire des prophètes, et ça remonte à quoi? En fait, à l'aube de l'humanité. À chaque fois qu'il y a eu une société, des gens qui cohabitaient ensemble, il y a toujours eu une élite qui a tenté de quoi? De manipuler les foules. Pourquoi? Afin de conserver leurs privilèges. Alors, cette élite, elle a eu des appellations différentes au cours de l'âge, au cours de l'histoire. On sait que au Moyen-Âge, on parlait du tiers-État, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette population pauvre, et le clergé est au-dessus d'eux.
La noblesse.
La noblesse, exactement. Merci, Issa. Donc la noblesse, le clergé, donc une minorité qui essayait de quoi? Ben, d'asservir ce tiers-État, afin de quoi? Afin de conserver leurs privilèges. Comment donc cette élite qui existe encore aujourd'hui réussit-elle, et de manière très efficace, à manipuler les gens? Parce qu'ils ont très bien étudié les comportements des êtres humains, leurs faiblesses et leurs besoins. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous parle, et c'est l'histoire, le récit qui est le plus souvent répété, c'est l'histoire de Moïse. Moïse qui a été envoyé à un peuple, le peuple juif, afin de les délivrer de la suprématie de qui? De Pharaon. Et Pharaon, Allah Azza wa Jal nous décrit comment Pharaon a réussi à manipuler son peuple. En un verset qui est très court, mais très profond. Il dit: فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوا. Il a abruti son peuple, il l'a abêti, et ils ont fini par le suivre et lui obéir. Et c'est exactement ce qu'utilise tout despote, toute oligarchie, toute aristocratie, toute noblesse dans toute société. Le premier des moyens, c'est de rendre le peuple bête, c'est-à-dire qu'ils ne fassent pas marcher leur intelligence, qu'ils n'aient pas d'esprit critique. Et là, c'est une critique que je vais émettre. Elle est vraie parce que je l'ai vécue et je pense que je ne suis pas le seul. L'éducation nationale, l'école publique, l'enseignement qui est délivré ne nous pousse pas à avoir un esprit critique. Et je donne un exemple que moi j'ai vécu. Alors ça reste anecdotique, mais je pense que c'est quelque chose qui se répète. Quand j'étais en troisième, je me souviens en français, on nous avait fait étudier le thème de la peine de mort. Et notre professeur de français, pendant plusieurs séances, elle nous a proposé des textes qu'on a étudiés. Certains étaient pour et d'autres étaient contre la peine de mort. Mais bizarrement, si effectivement le but de l'étude des textes était de nous pousser à réfléchir, à analyser la peine de mort, bizarrement, elle nous a proposé 8 textes qui est contre la peine de mort, qui sont contre la peine de mort, et seulement 2 textes en faveur de la peine de mort. Et en fin de cycle, elle nous a dit, on va réserver une heure pour débattre autour de la peine de mort, et vous allez me donner votre avis et vos arguments. Elle veut créer quoi ? Du débat, un échange d'arguments, et nous pousser à avoir un esprit critique comme elle le prétendait. Et quand est finalement arrivée cette heure de débat, il n'y avait qu'un seul élève dans la classe qui a osé dire qu'il était en faveur de la peine de mort. C'était qui ? C'était celui qui vous parle. Alors on était en troisième, mais bon, j'avais lu un peu sur le thème, et j'avais trouvé que certains arguments en faveur de la peine de mort étaient convaincants. On va pas s'étaler sur le sujet. Bref. Et quand j'ai commis le crime de dire que j'étais pour la peine de mort, la prof s'était emportée. Et elle m'avait insulté de rétrograde, de barbare. Elle m'avait dit, comment oses-tu dire ça? On est à une époque moderne, on a tourné la page. Et elle m'avait humilié devant les élèves. Donc on était là pour débattre, mais bizarrement, eh ben, finalement, elle m'a condamné. Et je suis parti la voir en fin de cours. Et je lui dis, madame, pourquoi avez-vous cette réaction violente envers moi? Alors que j'ai simplement émis mon avis, peut-être qu'il est faux, convainquez-moi du contraire, peut-être qu'il est vrai, et acceptez-le. Mais laissez-moi me défendre, et laissez les élèves entendre. Et elle m'avait dit, sache, Othman, que tu es le seul parmi la classe qui ait bien compris le cours. C'est-à-dire, tu es le seul qui ait bien compris, parce que tu as analysé les textes de manière profonde, n'est-ce pas? Alors moi, je lui ai répondu, mais madame, pourquoi alors nous avoir fait étudier 8 textes contre la peine de mort et seulement 2 textes pour? La logique voudrait que on ait 5 textes pour et 5 textes contre. Et elle m'a dit, in texto, c'est là que tu vois mon avis. Autrement dit, elle n'était pas là pour nous faire réfléchir, mais pour nous orienter vers un avis qu'elle considérait être le bon et le meilleur. Et tout au long de nos études, je pense que on nous manipule, n'est-ce pas? Alors pourquoi cette manipulation, cet embrigadement des esprits marche si bien? Parce que, en même temps qu'ils nous rendent bêtes, n'est-ce pas? Ou plutôt, ils nous poussent à réfléchir comme eux ils veulent, en même temps, ils nous empêchent de quoi? De critiquer ce qu'ils nous disent. Pourquoi? Parce que c'est la fameuse méthode qui a été utilisée déjà à l'époque romaine, comme on le dit, donner du pain et des jeux au peuple afin de quoi? De les gouverner. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'élève, lorsqu'il entend une certaine théorie qu'on essaie de lui inculquer à l'école, des certaines idées en histoire, en français, en philosophie, on ne lui laisse pas le temps à la maison de quoi? De confronter les idées qu'il a entendues et d'autres idées qui seraient contraires. Pourquoi? Parce que ils nous ont poussés à rechercher simplement, quand on a un temps libre, à se faire plaisir. N'est-ce pas? Il nous donne des jeux, c'est-à-dire des loisirs. À chaque fois que tu as un temps libre, en tant que jeune, il ne faut pas que tu penses à réfléchir, à développer une culture générale, mais il faut que tu penses simplement à regarder ton film, ton dessin animé, à parler au portable, à aller sur Internet, à sortir et s'amuser avec ses copains, à regarder le match de foot, à jouer aux jeux vidéo, n'est-ce pas? Et surtout pas, il ne faut pas que tu te retrouves avec toi-même et que tu commences à réfléchir. Donc, on nous manipule et en même temps on nous empêche d'entendre un autre discours, de faire l'effort, de faire un effort intellectuel de recherche. Et également, en même temps qu'il nous donne des jeux, des plaisirs, il nous donne du pain. Et je pense que par pain, ce sont en fait les aides sociales. C'est-à-dire qu'un élève qui sait que s'il n'a pas un avenir radieux, qu'il se retrouve sans travail, qu'il aura des aides sociales, en tant qu'élève, ça m'empêche d'avoir de l'ambition. Parce qu'on me pousse à être un assisté. N'est-ce pas? On me pousse à être un assisté et on me dit que si tu ne réussis pas à l'école, c'est pas grave, tu seras aidé, tu pourras vivre. N'est-ce pas? Donc, on nous donne du pain et des jeux et on nous manipule, on nous rend bêtes. Pourquoi? Afin que le discours qui va nous être transmis par les médias ou à l'école soit pris pour argent comptant. Afin que notre esprit critique soit neutralisé et paralysé. Et si le peuple est abêti et qu'il pense simplement au pain et au jeu, alors le discours islamophobe va être reçu et accepté, n'est-ce pas? Et surtout pas remis en question. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut aborder cette question de l'islamophobie de manière objective, et avec distance, c'est parce que, également, en tant que communauté musulmane, en tant que citoyen français musulman, également, on a réussi à nous manipuler. Comment? Comme une certaine élite a réussi à créer de la haine dans certains de nos concitoyens, à les rendre islamophobes, également, l'élite a également réussi à créer chez une certaine partie de la communauté musulmane une haine de la France et de ses concitoyens et de ses citoyens. Et c'est exactement ce que veut une certaine élite. Monter les citoyens contre les autres. Créer de la haine entre musulmans et non musulmans. Il ne faut surtout pas que nous, en tant que musulmans, en tant que citoyens, français musulmans, on tombe dans ce piège, qu'on éprouve de la haine envers nos voisins, envers nos camarades de classe, envers nos collègues de travail. Ce ne sont pas nos ennemis, même si on voudrait nous pousser à penser cela. Surtout pas tomber dans ce piège. Nos véritables ennemis, en tant que citoyens français musulmans, qui ont un esprit critique, ce sont ceux qui nous manipulent, ce sont eux nos ennemis. Ceux qui nous manipulent, ils sont une minorité, une élite. Pourquoi? Parce que ils veulent nous créer de la tension entre les peuples, entre les citoyens de confessions différentes, de cultures différentes, afin de nous garder en bas. N'est-ce pas? Afin qu'on ne les dérange pas, qu'on ne mette pas en danger leurs privilèges. Afin qu'on ne mette pas le doigt sur ce qui fait mal dans notre société, sur les véritables problèmes de notre société. N'est-ce pas? Dieu dans le Coran, il a également explicité et dit clairement que cette élite, ces notables, essaient de créer un mur d'angoisse et de peur entre les peuples. Allah Azza wa Jal dit « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dieu dit, les islamophobes disent au peuple, c'était vrai au temps du prophète, au temps des prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est vrai encore aujourd'hui. Cette élite dit au peuple à travers les médias, لا تسمعوا لهذا القرآن, ne tendez pas l'oreille à quoi, à ce Coran, c'est-à-dire aux musulmans. Ne tendez pas l'oreille aux musulmans. N'ayez pas d'échange avec eux. Repliez-vous. Comment? Regardez ce qu'ils disent, ce que dit Dieu de ces personnes. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا والغوا فيه لعلكم تغلبون. Comment vont-ils procéder afin de créer un clivage entre nos concitoyens? والغوا فيه, créer un obstacle de la roue. Dieu utilise le terme la roue, qui signifie, c'est un terme général qui englobe toutes les paroles qui n'ont aucun fondement, c'est-à-dire des accusations, c'est-à-dire des mensonges, c'est-à-dire de la propagande tout simplement. Créer un obstacle de la roue de propagande afin de triompher, la'allakum tardiboun, afin que vous, afin de réussir, afin de remporter la bataille. Et nous, en tant que musulmans, on ne doit pas penser que tous nos concitoyens non musulmans sont islamophobes, parce que c'est tombé dans le piège. Il y a deux types d'islamophobes. Il y a une élite islamophobe par conviction, par choix, qui crée, qui théorise, qui alimente, qui cultive l'alimentation, qui cultive l'islamophobie chez le peuple. Autrement dit, il y a une élite islamophobe par choix et par conviction. Il y a une partie de nos concitoyens, qu'on va appeler la masse ou les foules, qui sont islamophobes, pas par choix, mais malgré eux, à leur insu, sans même qu'ils s'en rendent compte. Parce qu'ils sont ignorants, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est l'islam et les musulmans. L'élite connaît l'islam, connaît la vérité, mais elle la cache à la masse. Et elle essaie de créer une islamophobie chez eux, c'est-à-dire une peur de l'islam. Une peur de l'islam. Cette peur de l'islam, elle crée une ambiance qui empêche le dialogue et le contact. En tant que musulmans, ce qu'on doit faire, ce n'est pas éprouver de la haine envers eux, mais les comprendre, parce qu'ils sont manipulés, et essayer de faire tomber ce mur de peur. Après la pause, on se demandera comment faire tomber ce mur de la peur, ou cette islamophobie qui existe entre nous et nos concitoyens.
Clafik Atman, donc effectivement après la pause on va essayer de revenir sur des choses pratico-pratiques comme on dit, de façon à ce qu'on puisse trouver des éléments de lutte contre cette manipulation des masses, cette même masse à laquelle on fait bien entendu partie. Voilà, quelques minutes de pause et on se retrouve d'ici quelques minutes. On rappelle le numéro du standard, Mohamed.
Numéro du standard 03 20 73 59 00. Donc après la pause, vous pouvez faire sorte, n'hésitez pas à intervenir. On sera là pour vous répondre.
De retour sur la zone de Pasta FM 99.4, l'émission La Prophétie. On est ensemble, Charles, jusqu'à 22h. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée par l'association Rencontre et Dialogue, que vous pouvez joindre à la maison des associations. 24 Place de la Liberté, Roubaix. Le thème de ce soir, hein, de l'islamophobie à l'engagement citoyen, si je puis dire. On a fait une belle introduction dans la première partie de l'émission, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sur j'ai retenu des jeux et du pain, c'est-à-dire pour mieux les contrôler, mieux les gouverner. C'est un vieux dicton qui date de l'Antiquité, hein, qui marche toujours. Donc voilà, manipulation, lobotomiser l'esprit critique chez les concitoyens, par X manière, de façon à pouvoir les monter les uns contre les autres, et là en l'occurrence de réels islamophobes qui manipulent les foules pour transmettre, pour diffuser leur idéologie au sein de la population. Donc voilà comment on peut contrer ce genre de choses, hein. Toujours raison gardée et dans le respect mutuel. Donc ça va être notre deuxième partie qui va nous occuper pour le restant de notre émission. Atman avec nous. Donc voilà, du pratique au pratique. Maintenant, comment on participe à essayer de faire changer les choses dans notre pays.
Oui. Alors après avoir compris qu'il y a deux types d'islamophobes, une élite réellement islamophobe, et c'est elle-même qui est à l'origine de l'islamophobie du peuple, qui est en fait victime d'une manipulation médiatique. Une fois qu'on a compris ça, maintenant posons-nous la question, comment remédier à cette islamophobie, à ce mur de la peur? Je vais vous donner deux exemples. Et dans ces exemples, dans ces deux anecdotes que j'ai pu vivre, on va en tirer certains enseignements sur comment remédier à cette islamophobie. Je vais vous donner deux types de professeurs que j'ai eus et qui schématisent bien le professeur que je mettrais plutôt dans le peuple et un certain type de professeur que je mettrais dans l'élite. Et vous allez bien voir comment ces deux types de professeurs sont différents, bien que tous les deux, à un moment donné, ils ont eu des propos islamophobes. Le premier, c'est mon professeur en hypocagne, en première année de prépa littéraire. Donc prépa littéraire, ça veut dire que les élèves qui ont été pris par dossier sont normalement destinés à être l'élite de demain, puisque leur formation poussée va les faire normalement entrer dans les écoles normales supérieures et ensuite être l'élite de demain. Et pendant un an, j'ai remarqué cette manipulation. Qu'en fait, on a voulu nous inculquer certaines idées afin d'être sur la même longueur d'onde que nos professeurs, afin de ne pas, d'être dans le même moule demain lorsqu'on sera dans les hauts postes. Mon professeur d'histoire, à chaque cours d'histoire, il réservait le premier quart d'heure à l'analyse politique de ce qui avait pu se passer durant la semaine. Et c'était l'époque des caricatures du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et juste avant l'affaire du voile. Et je me souviens qu'un jour, bon, à chaque cours, il devait verser son venin sur l'islam. Et un jour, pour vous montrer à quel point il était islamophobe, un jour, il avait photocopié la sourate Les Femmes, la sourate An-Nisa, qui fait à peu près un peu plus de 30 pages. Il l'a photocopiée, donc une traduction d'un orientaliste, une traduction qui n'était pas tout à fait, fidèle. Et il a donné une copie à chaque élève, donc on était une trentaine, donc il a mis de l'argent de sa poche. Mais bon, pour inculquer une idée, on est prêt à mettre tous les moyens en œuvre. Et il avait fait pendant une demi-heure un exégèse, un tafsir, une interprétation des versets équivoques qui traitent des femmes, qui traitent de l'esclavage, etc.
Un tafsir à sa manière.
Bien entendu, à sa manière. Et en fin de cours, en fin de tafsir, une élève avait levé la main et avait eu cette remarque pertinente: « Monsieur, à vous entendre, on devrait détester l'islam et les musulmans. Et pourtant, je remarque autour de moi, de plus en plus de personnes soit aiment les musulmans ou se convertissent à l'islam. » D'ailleurs, dans une étude, année 2010-2011, il y aurait eu une augmentation de 17% dans le phénomène de conversion à l'islam. Et qu'est-ce qu'avait répondu le professeur? Il a eu cette réponse révélatrice de son islamophobie: c'est parce qu'ils n'ont pas assisté à mon cours. S'ils avaient assisté à mon cours, ils auraient compris ce qu'est l'islam et ils auraient détesté l'islam.
L'humilité faisait partie de ses valeurs, apparemment.
Exactement. Face à cette islamophobie, et bien entendu, j'étais le premier visé, puisque indirectement, il m'insultait moi. Comment ai-je réagi? On était en début d'année scolaire. Les élèves n'étaient pas tout à fait manipulés, puisqu'ils venaient à peine de commencer le processus de manipulation, d'islamophobie. J'ai tout de suite pris les choses en main, et durant une pause à midi, alors que nous étions dans la même salle, on attendait les professeurs, chacun a mangé son sandwich tout seul, il y avait un esprit individualiste, puisqu'on on se faisait concurrence, tout le monde n'allait pas passer en deuxième année. J'avais brisé cette ambiance tendue. Avec quoi ? Avec un geste simple. Mais vous allez voir qu'il y avait des conséquences très positives. J'avais ramené une assiette de gâteau arabe et j'ai commencé à distribuer à chaque élève en leur disant « prenez ». Et certains s'étaient étonnés, mais pourquoi fais-tu ça? Je leur ai dit, ben, tout simplement parce que j'aime ces gâteaux, et ce que j'aime pour moi, je l'aime pour vous. Et je suis arrivé à un élève, lorsqu'il a pris le gâteau, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, s'il te plaît, je voudrais te poser certaines questions. Il a commencé à me dire, voilà ce qu'a dit le prof d'histoire, tu te souviens, qu'est-ce que t'en penses? Et j'ai commencé à lui donner la vraie version des faits, où je lui présentais l'islam sous son vrai jour et il avait compris à quel point le prof en fait essayait de nous manipuler. Et c'est grâce à cet assiette de gâteau, à ces gestes citoyens, bienfaisants, ce geste humain, que j'avais réussi à quoi ? À faire tomber ce mur de la peur. Et si je n'avais pas fait ce pas vers eux, ils n'auraient pas fait le pas vers moi. Parce que le professeur avait créé un climat délétère, un climat tendu, un climat islamophobe dans la classe. Et à chaque fois que le professeur avait eu des propos insultants envers l'islam et les musulmans, je faisais le travail derrière de quoi? De rectifier les amalgames, les clichés qu'il avait véhiculés. Ça, c'est le premier type de professeur. Le deuxième type de professeur, c'était ma professeure de philosophie en terminale. Elle avait fait une erreur assez grotesque en faisant un parallèle, un rapprochement entre le clergé, le christianisme, qui était à l'origine de, était l'un des facteurs de l'obscurantisme en Occident. Elle avait dit c'est à peu près la même chose avec l'islam. C'est une erreur grotesque. Je suis parti là-bas en fin de cours et je lui dis madame, c'est l'inverse. L'islam, c'est lui qui est à l'origine de la civilisation arabe, qui est à l'origine de l'essor et de la prospérité en Orient. Elle m'avait dit, c'est étrange, je ne le savais pas. Et cette professeure, elle l'avait fait par ignorance, pas par islamophobie, mais par ignorance. Elle n'était pas mal intentionnée. C'est ce qu'elle avait lu, c'est ce qu'elle avait entendu. Et regardez sa réaction. Elle m'a dit, je te donnerai l'occasion au cours prochain de rectifier l'erreur que j'ai faite. Et figurez-vous qu'elle m'a donné 4 heures. 4 heures, c'est-à-dire 2 cours de suite, 2 heures et 2 heures. Où j'ai pris la parole et j'ai expliqué l'islam, ce qu'était l'islam. Quelques années plus tard, je découvre que deux de mes camarades étaient entrés dans l'islam. Suis-je à l'origine, je n'en sais rien, mais j'espère en tout cas avoir participé à ça, comme ça, ça me fera des bonnes actions, des hasanates. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le premier professeur d'histoire en prépa, il faisait partie de cette élite islamophobe qui veut nous rendre islamophobes, qui veut manipuler. La deuxième, le professeur de philo, elle était simplement victime de ce qu'on lui avait dit. Et regardez comment elle a réagi, une réaction tout à fait normale, c'est qu'elle m'a donné l'occasion de parler de l'islam, parce que je suis le mieux placé pour parler de ça. Donc toujours, on distingue le peuple et l'élite. Comment faire tomber ce mur de la peur en faisant le pas vers eux? Tout d'abord, en faisant cette distinction, en ne mettant pas tout le monde dans le même sac, en n'ayant pas des positions extrêmes, c'est blanc ou noir, soit on est pour nous, soit on est contre nous, avec nous ou contre nous, c'est en étant juste. Une fois qu'on a changé notre vision des choses, notre vision de l'islamophobie, on va comprendre que le rapport que nous devons adopter avec les victimes de l'islamophobie, c'est un rapport d'amitié, un rapport d'ouverture, tandis que le rapport que nous devons adopter envers les ennemis de l'islam, l'élite, c'est un rapport de force. Vous avez deux rapports à adopter. Lorsque vous avez affaire à des gens ignorants, victimes de l'islamophobie, c'est un rapport d'ouverture, d'échange. L'élite, qui est ennemie de l'islam, c'est un rapport de force, c'est-à-dire de force citoyenne. J'entends pas par la force la violence, pas du tout, mais je parle d'une force citoyenne, c'est-à-dire ces gens ne vont nous respecter en tant que musulmans, en tant que citoyens français musulmans, que si nous avons du poids, que si nous avons un moyen de pression, que si nous mettons en danger leurs privilèges. Si on reste en bas de la société, on sera toujours victime. Si on décide d'être fort économiquement, politiquement, citoyennement, médiatiquement, alors on va se faire respecter. On va être craint. Parce qu'avec ces gens islamophobes, ce qu'ils comprennent, c'est le rapport de force politique, économique, etc., etc. Pourquoi ne pas avoir un lobby musulman, comme il existe un lobby juif, comme il existe un lobby homosexuel? Pourquoi ne pas avoir un lobby musulman afin que l'on soit respecté, n'est-ce pas? Notre rapport avec le peuple, et c'est ce qui m'intéresse, c'est de faire le pas vers eux et de leur montrer. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est nous qui devons faire l'effort, mais c'est ce qu'il faut faire. Certains vont dire, pourquoi être toujours dans le box des accusés? Pourquoi toujours montrer patte blanche? Je suis désolé, mais on est arrivé à un stade où c'est nous qui devons faire le pas vers les gens, et non pas eux, parce que eux, ils ont peur. Donc c'est à nous de faire le pas vers eux. C'est à nous de faire le bien envers les gens. Et il y a différentes manières. Il faut que nous ouvrions nos mosquées aux gens. Il faut faire des portes ouvertes. Nous, dans notre mosquée, dans le Nord, on a fait une porte ouverte l'année dernière. C'était un succès foudroyable. De 9h du matin à 19h du soir, à 19h, on a eu en boucle, sans avoir, et pour vous dire, je n'ai même pas eu le temps de manger. Tellement on a reçu de gens, et tellement ils étaient demandeurs. Et nous avions proposé des guides. On était une équipe de 7 guides qui faisaient une visite guidée de la mosquée. Donc comment ça se passe à la mosquée, qu'est-ce qui s'y passe, comment est financée la mosquée. Donc toujours essayer de quoi? D'apaiser les gens, n'est-ce pas? Et grâce à cette action, ils sont tous sortis avec un sourire, en étant apaisés et en disant, c'est quand la prochaine porte ouverte. Et on avait fait un livre d'or où chaque visiteur avait écrit un mot. Tous les mots exprimaient une agréable surprise de ce qu'est l'islam et de ce qu'est son emblème, la mosquée. Et alors en plus, lorsqu'on leur donne des gâteaux et du thé, ça marche encore mieux, n'est-ce pas? Puisque ça crée une ambiance conviviale et c'est là que les gens s'ouvrent. Et je me souviens qu'une vieille dame était venue avec sa fille. Elle avait à peu près, elle avait plus de 70 ans. Elle s'était quand même déplacée parce qu'elle habitait dans le coin et elle voulait savoir qu'est-ce qui s'y passait. Donc qu'est-ce qu'on faisait à la mosquée. C'était une voisine. Et je me souviens qu'elle avait eu cette remarque qui nous a tous touchés. Elle a dit, aujourd'hui, c'était un dimanche, elle a dit, aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Et je n'ai pas eu la visite de mes enfants, parce qu'ils m'ont délaissé. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer et vous certifier que j'ai passé le meilleur anniversaire de ma vie. Parce que vous m'avez bien reçu. Parce que des enfants étaient à la porte et distribuaient des gâteaux. Parce que j'ai appris à connaître une religion que je ne connais pas. Des gens qui vivaient avec moi, donc, dont j'avais peur. Et elle était très contente, et je lui ai même offert un livre, et elle avait les larmes aux yeux. Donc, faire des portes ouvertes, ouvrir nos mosquées, mais aussi ouvrir nos maisons. Il faut que nous invitions nos voisins. Le voisinage, c'est très important. Il faut que nous invitions nos voisins non musulmans afin qu'ils rentrent chez nous, qu'ils s'assoient, qu'ils mangent, afin qu'il y ait un dialogue et une ouverture. Il faut que nous nous intéressions, que nous montrions un intérêt au patrimoine français, à la langue française et au patrimoine de la France. Parce que si on ne montre pas d'intérêt au patrimoine de la France, ça veut dire que nous ne sommes pas intégrés. Ça veut dire que on ne se sent pas bien ici. Il faut que nous préservions la culture française, que nous préservions le patrimoine de la France. Notamment, alors c'est une proposition, mais il y en a des dizaines d'autres, pourquoi ne pas emmener nos enfants, rendre visite, si vous êtes dans un village ou dans une ville, au doyen de ce village, à une personne très âgée qui a connu peut-être la guerre, je ne sais pas, ou en tout cas qui a connu la France quand elle était encore à son état, on va dire, comment dire, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que pourquoi ne pas profiter de ces gens qui font partie du patrimoine, ne pas les rencontrer afin qu'ils nous racontent comment cette ville a pu se développer, comment elle a pu se construire, qu'est-ce qui s'y est passé, afin de connaître notre histoire, parce que nous vivons dans cette ville ou dans ce pays, on a besoin de connaître, afin d'aimer ce pays, afin d'aimer son histoire, afin d'avoir des points communs avec nos citoyens. Pourquoi ne pas avoir des actions sociales, proposer des actions sociales qui vont toucher non plus simplement notre communauté, parce que parfois on est communautaire, on pense à nous, pourquoi ne pas faire du bien, être bienfaisant envers tout le monde, sans distinction de religion ou d'origine. Pourquoi ne pas faire du bien à nos voisins, aux malades, qui sont pas forcément musulmans, n'est-ce pas? Parce que chez nous, en islam, il nous est demandé de faire du bien à tout le monde. C'est-à-dire que Dieu, il va te récompenser de la même manière si tu fais du bien à un musulman, au même titre que si tu fais du bien à un non-musulman. Ce sont des êtres humains au final. Pourquoi toujours être renfermé, enfermé, hein, être communautaire? Non, il faut qu'on s'ouvre aux gens. Et je vais vous donner un exemple qui va vous montrer à quel point en islam, cette idée est très présente et très ancrée. Je vais vous parler de l'homme qui a la plus grande foi après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans cette communauté. C'est Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife, le compagnon intime du prophète. Alors que les persécutions étaient à leur comble, à la Mecque, à l'avènement de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq n'en pouvait plus. Il a décidé de faire ce qui aujourd'hui dans la bouche de, pas beaucoup, mais d'une certaine partie de nos concitoyens musulmans, il a voulu faire la hijra, c'est-à-dire l'égir, c'est-à-dire quitter sa société afin d'adorer Dieu librement. Et c'est là ce récit que je vous rapporte, c'est sa fille Aïcha qui nous le compte. Elle dit: mon père a décidé de partir, de quitter sa société, de nous quitter afin d'adorer Dieu librement dans une autre contrée. Alors qu'il était en chemin, il a fait la rencontre d'un homme, d'un notable d'une autre ville, pas de la Mecque mais d'une autre ville, qui s'appelle Ibn Durunna. Ibn Durunna voit Abu Bakr, il lui dit: Abu Bakr, qu'est-ce qui te prend? Où vas-tu? Il lui dit: mon peuple, ma communauté m'a persécuté, elle m'empêche d'adorer Dieu librement, d'exercer mon culte librement. J'ai donc décidé de chercher la liberté autre part. Écoutez la réponse de Ibn Durunna. Sachez qu'Ibn Durunna ne connaît pas Abu Bakr directement, mais que Abu Bakr, il était tellement connu par son bon caractère que sa notoriété avait dépassé les limites de la Mecque. Ibn Durunna lui dit: un homme comme toi, un homme de ta prestance, un homme de ta notoriété, un homme de ton caractère, écoutez bien ce qu'il dit, ne doit pas quitter sa société et ne doit pas être expulsé de sa société. Et ensuite, il nous dit pourquoi. Il continue en disant: donc tu es un homme comme toi ne peut pas quitter sa société et ne peut pas être extraité de sa société, car il va décrire Abu Bakr, il va mettre en valeur quatre qualités qui sont en lui. Si elles se retrouvent en l'un de nous, dans notre société, vous ne pouvez pas quitter votre société ni même être rejeté de votre société. Il dit, tu viens en aide aux démunis. C'est-à-dire, pour le dire autrement, tu apportes des aides sociales aux personnes sans travail, aux personnes qui n'ont pas d'argent, aux personnes qui sont au chômage. Autrement dit, Abou Bakr, première qualité, tu combats le chômage et tu proposes des occasions de travail. Et tu viens en aide aux personnes démunies dans ta société. Deuxièmement, il lui dit, tu portes assistance, tu viens en aide aux yatama, c'est-à-dire aux orphelins. Donc premièrement, il combat le chômage. Deuxièmement, il fait de l'action sociale. Il aide les personnes faibles dans la société, notamment ici l'orphelin. Troisièmement, il lui dit, tu raffermis tes liens de parenté. Tu es quelqu'un qui consolide ses liens de parenté, qui est en bon terme avec sa famille. Sachez que la famille de Abou Bakr est à majorité non musulmane et elle le combat. Mais malgré ça, il entretient de bons rapports avec ses parents, sa famille. Quatrièmement, il lui dit, tu fais hospitalité à tes hôtes. C'est-à-dire que tu invites les gens chez toi pour qu'ils mangent et tu es hospitalier envers eux. Tu es aimable envers eux. Cinquièmement, il lui dit, tu es aux côtés de la justice. Autrement dit, Abou Bakr Siddiq, dans sa société non musulmane, islamophobe, c'était un bon élément. C'était un citoyen en puissance. C'était quelqu'un qui faisait du bien aux gens qui l'entourent, quelqu'un qui venait en aide à sa société. Il lui dit, un homme comme toi ne peut pas quitter sa société et ne peut pas être exclu de sa société car tu as en toi ces cinq qualités. Il lui dit, reviens à la Mecque, je te mets sous ma protection. Et ils vont revenir à deux à la Mecque. Donc il va délaisser la hijra pour revenir à la Mecque. Et ce notable, Ibn Durunna, va dire au notable de la Mecque, il est sous ma protection à partir d'aujourd'hui. Et il va adorer Dieu chez lui, n'est-ce pas? Et il va continuer sa citoyenneté. Parce que son but, c'est quoi? Ce n'est pas de quitter sa société, mais c'est de la réformer. Lorsqu'il a eu l'occasion de continuer la réforme de la société, il est revenu. Parce que quelqu'un lui avait assuré la protection. N'est-ce pas? Donc nous, si ici, dans notre société, et je vous assure qu'on n'a pas connu l'islamophobie qu'a connu Abou Bakr ou le prophète à l'époque mécoise, on est loin de ça. On est loin de ça. Malgré ça, le prophète et Abou Bakr étaient des citoyens positifs dans leur société. À nous de faire pareil.
C'est très important ce que tu viens de dire à l'instant. C'est vrai que ici et là, on entend quelques propos tenus par des frères qui disent que justement, est-ce que c'est le moment de quitter la France? Est-ce que justement on a affaire à une islamophobie? Est-ce que tu as dit un peu plus là-dessus? On profite de ce petit moment parce qu'on a un auditeur qui est en ligne. Salam alaikum.
D'accord, merci beaucoup.
Oui.
Salam alaikum, on vous entend, on vous écoute.
Allô, salam alaikum. Je vous remercie de votre intervention qui est d'un bon niveau et on a besoin de ce genre d'intervention et de ce genre d'argumentaire et Dieu sait combien nous en avons besoin et donc ne serait-ce que pour cela je tiens à vous remercier et deuxième chose j'aimerais intervenir sur je suis partiellement d'accord avec vous mais c'est pour compléter vos propos premièrement sur le plan sémantique, si on peut se mettre d'accord sur le vocabulaire. Mmh. Aujourd'hui, on n'assiste pas uniquement à une islamophobie. Parce que, d'après ce que je sais, islamophobie, c'est avoir peur de l'islam. Mmh. Mais moi, je pense que nous sommes à deux niveaux. Il y a l'islamophobie et il y a une lutte acharnée contre tout ce qui représente la culture et l'histoire musulmane. Donc ce sont deux niveaux différents et cette lutte acharnée, elle date depuis plusieurs siècles. Je pense que vous connaissez les écrits du père Blackstone aux États-Unis et vous connaissez ensuite les écrits du célèbre philosophe américain Leo Strauss. Et dans la même lignée, ses élèves et ses adeptes comme Samuel Huntington, Bernard Lewis et le dernier, Samuel Huntington, là je l'ai déjà énuméré. Donc je pense qu'au niveau des citoyens français, c'est vrai, il y a une certaine frange de citoyens français. Effectivement, ils ont peur de ce qu'on leur dessine comme image de l'islam. Donc à ce niveau-là, on peut parler d'islamophobie. Mais ce problème-là, on peut le régler d'une manière plus ou moins facile, tel que vous l'avez vous-même énuméré. Et j'ajouterai, on peut le régler d'une manière civilisationnelle et citoyenne, c'est-à-dire à travers notre comportement. Si le français de conviction musulmane se comporte de la manière telle qu'elle est décrite dans le Coran Karim et dans le hadith du prophète Sunna Nabawiya, donc d'emblée, nos concitoyens français de convictions diverses, ils vont se rendre compte que ce qu'on leur dessine comme image diabolique et image affreuse de l'islam, en fait, il n'en est rien. Donc ça, c'est la responsabilité de tout concitoyen français de confession musulmane.
Entièrement d'accord.
Dawa, comme on dit, dawa bil qudwa en arabe. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de cette lutte acharnée contre tout ce qui est culture musulmane, religion musulmane, qui date depuis des siècles et des siècles, là, il faut avoir d'autres moyens et d'autres outils pour lutter contre cela. Premièrement, la première des choses, à mon égard, il faut une élite qui est représentative et qui est capable de répondre de manière intelligente, mais de manière ferme aussi. Parce qu'il faut ne serait-ce que dans les propos. Aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, nous sommes des musulmans français, mais nous sommes tellement divisés que les autres apparaissent forts. En fait, ils sont forts parce que nous sommes faibles. Et le premier symptôme de notre faiblesse, c'est notre division, on s'entre-déchire entre nous. Et donc, comme disait Ibn Khaldoun, ittafaq al-arabu ala an yattafiqu. Les Arabes, ils parlent des Arabes musulmans. Ils se sont mis d'accord sur une seule chose, c'est de ne jamais être d'accord. Et nous sommes toujours dans cette symptomologie qui, malheureusement, nous range. Les luttes intestines, malheureusement, il faut le reconnaître, parce que si on ne reconnaît pas le mal, on ne peut pas le guérir. Donc il faut reconnaître qu'on est tellement divisé que ça nous affaiblit à tous les niveaux. Et les autres, quels que soient ces autres-là, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur capacité à drainer des foules, ils apparaissent donc obligatoirement forts, ce qui n'est pas en soi-même vrai. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième chose, vous avez donné un si bon exemple de Pharaon et de Moussa alayhi salam. J'ai constaté que vous êtes arrêté à la première étape dans la manipulation médiatique et utiliser les outils du pouvoir contre Moussa alayhi salam. Mais si on chemine vers la fin de l'histoire, on verra qu'à un moment donné, Moussa alayhi salam, par l'ordre de Dieu, il a été amené à se dresser d'une manière ferme contre Pharaon, l'anatollah alayhi, ne serait-ce que par cette grande exode du peuple d'Israël avec Moussa alayhi salam, et on a vu la fin tragique de Pharaon. Donc ça, c'est aussi un autre niveau de manière de lutter. Vous avez parlé aussi de Abu Bakr radiallahu anhu qui voulait s'exiler pour pratiquer sa religion d'une manière libre. Et il a rencontré la personne dont vous avez parlé. Mais, donc il l'avait dissuadé, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à un moment donné, c'est Allah Ta'ala qui avait ordonné aux musulmans de s'exiler. Donc l'exil, ce n'est pas une fuite en soi, c'est aussi une manière de lutter, une manière intelligente de lutter aussi. Donc je suis d'accord avec vous, mais je voulais compléter vos propos.
Je vous remercie.
S'attarder à un certain niveau, à une phase de l'histoire ou bien à une transposition dans le temps et dans l'espace et s'arrêter à, on va dire, à un rapport d'étape. Il faut aller le plus loin possible.
Merci, merci beaucoup.
Dernière chose,
je suis désolé, mais on va devoir
de votre intervention et j'aimerais bien que, et je remercie aussi Pastel FM, et j'aimerais bien que ça continue dans cette lancée. Ce que j'ai demandé.
Oui.
Alors,
ça a coupé là.
Si je pouvais avoir votre numéro de téléphone pour qu'on puisse.
Très bien. Prenez-le à la technique.
Oui.
On vous transmettra un numéro de téléphone pour qu'on reste en contact.
Ok, merci beaucoup. Salam alaikum.
Alors, Barakallahu fik, après nous avons un deuxième auditeur en ligne. Nous allons prendre son appel.
Allô.
Allô. Salam alaikum. Allô, salam alaikum.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je m'appelle Henri, je suis français.
Ah, bonsoir, monsieur.
Pas de souche, non, parce que j'ai un père polonais et une mère belge, mais je suis français. Et je suis converti à l'islam.
Mashallah.
Merci. Et je me suis aperçu que c'est pas tellement l'islamophobie, c'est plus l'arabophilie.
Très bien.
L'arabophobie, pardon.
Très bien.
C'est parce que ce qui m'est arrivé une fois, c'est que, voilà, je suis arrivé avec un copain dans une boîte en Belgique,
oui.
À Dancing.
Oui.
Je suis rentré, je suis blanc de peau, mon copain est légèrement bronzé.
Oui.
On m'a laissé rentrer, je suis rentré. Mon copain est resté dehors, je suis retourné, on m'a dit, toi tu rentres pas. Les viseurs lui ont dit, toi tu rentres pas. J'ai dit, pourquoi il rentre pas? Ben non, pas d'arabe ici. Ben je dis, excuse, je suis musulman, je repars.
Très bien. Très bien.
Merci monsieur pour votre intervention.
La différence est là.
Merci beaucoup.
C'est pas beaucoup. L'islamophobie, les gens confondent l'arabe avec le musulman. Musulman, excuse-moi, mais enfin, t'es plus au courant que moi, mais je crois que musulman, c'est une religion.
Oui.
Effectivement, ça n'appartient pas à une commune.
Voilà, tu peux être blanc,
mais une nationalité.
Comme un lavabo, comme on dit. et voilà. Les gens font son racisme, c'est la couleur de peau, tout simplement.
Merci monsieur.
Merci pour votre témoignage.
Merci pour votre témoignage monsieur.
Merci.
Alors, maintenant, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à nos deux auditeurs.
Très succinctement, parce qu'on a encore des choses à dire sur le thème. Très succinctement, premièrement, je remercie la première personne qui a appelé, commentaire très intéressant. J'avais en début d'émission, peut-être n'avez-vous pas entendu monsieur, mais j'avais bien distingué ces deux niveaux d'islamophobie. On les appelle comme on veut, je ne voulais pas entrer dans des divergences de terminologie, je ne voulais pas définir l'islamophobie au départ parce que ça va prendre trop de temps et puis je pense que c'est un peu stérile. Moi ce qui m'intéresse, c'est de distinguer deux types de personnes. Des personnes qui ont une haine envers l'islam, c'est une haine qu'ils choisissent et qu'ils entretiennent, et des personnes qui sont ignorants de l'islam et qu'ils en ont peur. Alors ça peut être de la haine, mais c'est pas une haine qu'ils ont choisie, ils sont victimes. Très bien, le rapport qu'on doit avoir avec ces gens qui sont victimes, c'est un rapport de miséricorde, comme avait le prophète ce rapport de miséricorde avec son peuple. Tandis que les gens qui créent l'islamophobie, donc nos véritables ennemis, c'est un rapport de force. Alors effectivement, cette élite, on arrivera à les atteindre, comment? En ayant nous-mêmes une élite, et ça je l'ai bien dit. Alors, on peut tous réagir contre cette élite par le vote. Et ça, je pense que on l'a fait le week-end dernier et on le refera jusqu'à ce qu'on prenne en considération notre force électorale. J'espère que les musulmans vont se réveiller et qu'ils vont aller aux urnes. Deuxièmement, il y a déjà une élite, ou plutôt des instances qui représentent l'islam et les musulmans et qui ont essayé d'entrer en contact avec cette élite politique. Alors, ils ont fait des erreurs, personne n'est parfait, et d'ailleurs, ils sont peut-être les initiateurs, c'est pour ça que parfois, ils ne sont pas efficaces, mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'ils ont commencé, c'est à nous de suivre. Et il faut que cette ces instances qui représentent l'islam, il faut que nous, en tant que musulmans, nous soyons en contact avec eux afin que nous adoptions une stratégie commune. Et c'est là que je vous rejoins quand vous disiez que nous sommes divisés. Effectivement, il faut que nous rejoignions nos forces et qu'on passe au-delà de nos divergences parce que nous avons un objectif commun, c'est de vivre pleinement notre citoyenneté en France et d'être traité de manière égalitaire avec nos concitoyens non musulmans. Donc ça, c'est un objectif que nous avons tous en tête et on doit s'entraîner, passer au-delà de ce, que nous, de ce qui nous divise pour au moins se réunir sur ce projet afin de l'accomplir. Parce que si nous sommes divisés, effectivement, on n'y arrivera pas.
Juste pour un petit peu aller dans le sens, si je peux me permettre, Atman. Bon, merci bien sûr l'auditeur. Hein, il va rappeler juste à la fin de l'émission pour qu'il puisse avoir tes coordonnées si c'est possible. Bon, ça je te le dis. Sur la question d'une élite. Ok, bon, on peut entendre l'argument. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai un petit peu de réserve parce que le problème de l'élitisme, c'est en décharge de la majorité des personnes en disant bah moi je suis pas capable parce que intellectuellement j'ai pas de niveau, j'ai pas fait tant d'études, c'est compliqué, je comprends pas toujours. Et à ce moment-là, il y a une fuite en arrière en disant bah d'autres vont s'en occuper parce qu'ils ont plus de moyens, ils ont plus de capacités. Je dis pas qu'il faut pas qu'ils, mais à un moment, il y a pas besoin de sortir de l'ENA pour pouvoir agir. Je veux dire, la plupart des gens qui s'engagent politiquement, oui. Je parle pas de ceux qui votent, je parle de ceux qui s'engagent politiquement, qu'ils soient dans un conseil municipal ou qu'ils sont au conseil régional ou cantonal, enfin bref, ils ont pas fait bac plus 15, c'est des gens qui ont des convictions, ils s'intéressent sous forme associative au départ, souvent c'est le cas, ils rentrent dans le milieu un peu du militantisme, et après, bon, ils gravissent un petit peu les échelons parce qu'ils connaissent un petit peu les arcanes des structures, c'est tout. Et il faut pas forcément attendre, me semble-t-il, hein, de sortir avec des blindés de diplômes. Et en définitive, ça décharge un certain nombre de nos concitoyens en disant que moi je ne suis pas capable, d'autres vont le faire à ma place. Et à ce moment-là, on connaît toujours la musique. Il y a personne qui bouge puisqu'on attend toujours l'autre qui vient pas, quoi. Donc voilà un petit peu pour le danger. Oui, pour une élite, mais on est capable, nous, à notre niveau, de faire beaucoup de choses. Tu l'as dit, hein, ne serait-ce voter. Alors voter en âme et conscience, hein, il faut aussi analyser les discours. Et après, il faut s'engager, hein, faut militer. Hein. Militer, c'est pas forcément aller chercher un poste de premier ministre. Militer, ça commence par dans une petite association, comme tu l'as dit. Répondre du lien social, un petit peu, bon, sans prétention aucune, mais ce qu'on peut faire nous à notre niveau sur la ville de Roubaix, rencontrer dialogue, et on est bien peu de personnes à le faire malheureusement, mais on peut commencer par là et à un moment gravir les échelons, entrer en contact avec des personnes qui voient notre action et qui disent bon bah tout compte fait, je pense à vous s'il y a telle ou telle chose, et voilà, il y a du lien qui se crée, il y a un réseau qui se tisse, et c'est comme ça qu'on change les choses, me semble-t-il.
Exactement. Tout à fait d'accord, Issa, je te remercie d'être intervenu et d'avoir souligné ce fait. Effectivement, nous sommes tous responsables. Alors nous sommes en partie, et c'est par là que je vais terminer, responsables de l'islamophobie en tant que musulmans. Pourquoi ? Parce que, je le disais tout à l'heure, on a été nous-mêmes manipulés, on nous a poussés à haïr la France et nos concitoyens français. Également, parce que certains d'entre nous ont des comportements qui sont en contradiction avec leur religion. Et comme le discours qu'entend une certaine masse dans notre société, c'est que l'arabe qui commet un crime, un délit, forcément s'est rattaché à son origine ou forcément s'est rattaché à sa religion, ce raccourci, il est présent. Ce raccourci, il est présent. Et si ce raccourci est présent, il ne faut pas l'ignorer. C'est-à-dire que si moi, en tant que musulman, je commets un délit, bien entendu, je vais être condamné par la société civile, justement. Mais je vais aussi être condamné par Dieu le jour de la résurrection, car non seulement je suis responsable de ce que j'ai fait à titre individuel, mais également ce que j'ai pu faire, forcément, il a eu un impact sur quoi ? Sur l'islam. Et donc, celui qui commet une faute, en tant que musulman, il est doublement condamnable. Il est condamné et condamnable par la société civile et par ses concitoyens, mais il va également être condamné par Dieu, car il n'a pas été de cette communauté que Dieu a désignée comme étant wasata, c'est-à-dire du juste milieu, et Dieu dit que cette communauté du juste milieu, elle a été érigée afin qu'elle porte témoignage le jour de la résurrection et qu'elle dise au Seigneur, nous avons fait l'effort de transmettre notre religion comme il se devait et pourtant on l'a repoussée. Si on n'a pas été capable de transmettre notre religion comme il se devait, alors nos concitoyens non musulmans vont nous demander des comptes le jour de la résurrection. Ils vont nous dire, ô Seigneur, si je n'ai pas cru en toi, si j'ai été islamophobe, c'est à cause de ces musulmans qui n'ont rien fait pour me faire aimer l'islam, ou pire encore, ils ont tout fait pour me faire fuir de l'islam. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit tous avoir dans l'esprit et dans le cœur. C'est que nous avons une mission. C'est d'être des gens bienfaisants et réformateurs. Notre but, c'est quoi ? C'est d'être une miséricorde pour l'univers. Comme Dieu l'a dit dans le Coran en disant du prophète qu'il a été envoyé comme miséricorde de l'univers. Si tu n'as pas encore atteint ce degré, ou si tu n'as pas pris la décision un jour d'être une miséricorde pour tes concitoyens, sache que tu vas en rendre compte le jour de la résurrection. Ce qui suppose de toi que tu vas essayer au quotidien avec tes concitoyens de montrer une bonne image, une belle image de l'islam. Et ça va supposer de toi de faire des concessions. Ça va supposer de toi de faire des concessions. Et je termine par cette histoire que tout le monde connaît, peut-être pas les détails, mais en tout cas on a tous entendu parler de la fameuse trêve, le pacte de Al-Hudaybiyah, que le prophète a conclu avec ses ennemis de la Mecque, ceux qui l'ont rejeté. Alors qu'ils étaient assis sur la table des négociations, Suhail ibn Amr, qui est le porte-parole des polythéistes de la Mecque, dit au prophète, nous voulons une trêve de 10 ans. Le prophète lui dit, ok, mettons-nous d'accord sur les clauses du contrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, qui va être le scribe, qui va mettre par écrit ce contrat, il dit, écris au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et là d'emblée, Suhail ibn Amr s'oppose et dit, je ne connais pas Dieu sous cet attribut, le miséricordieux, le très miséricordieux, je ne le connais pas. Effacez-moi ça, dites simplement au nom de Dieu. Ali s'emporte et dit, comment ? Notre Seigneur n'est-il pas le miséricordieux ? On l'écrit. Et le prophète de lui dire, non Ali, efface, parce que c'est un détail. Ce qui nous intéresse, c'est quoi ? C'est d'arriver à quoi ? À une situation de paix. Et on est prêt à faire des concessions. Et ça relève du détail, écrit au nom de Dieu. Il continue en écrivant, se sont mis d'accord. Muhammad, Rasulullah, Muhammad, le messager de Dieu, s'est mis d'accord Muhammad, le messager de Dieu, avec Suhail ibn Amr. Et là, Suhail ibn Amr s'oppose, il dit, je ne reconnais pas que tu es le messager de Dieu. Ce statut que tu veux inscrire, il me dérange. Parce que je ne reconnais pas que tu es le messager de Dieu, parce que si tu étais à mes yeux le messager de Dieu, je ne serais pas là pour écrire une trêve, je ne te ferai pas la guerre. Et Ali refuse d'effacer, il dit, tu es le messager de Dieu. Et le prophète lui dit, montre-moi. où tu as écrit, parce qu'il était illettré, et il va effacer. Le messager de Dieu, il va dire écrit Muhammad, le fils de Abdullah, le fils de son père, le fils de Abdullah. Donc c'est mis d'accord Muhammad, le fils de Abdullah, et Suhail ibn Amr sur les points suivants. Suhail ibn Amr dit, première condition afin d'arriver à une paix entre nous pendant 10 ans, c'est la chose suivante: si un prisonnier musulman s'échappe de la Mecque et qu'il vient vous rejoindre à Médine, vous devez nous le rendre. C'est une chose très difficile, une décision très difficile à prendre. Et le prophète va quand même concéder. Il va dire j'accepte. Regardez ensuite ce que dit Souhaïb ibn Amr. Il dit par contre, si un homme de Médine quitte l'islam et qu'il vient nous rejoindre à la Mecque, alors nous le gardons chez nous. Donc c'est injuste. Et le prophète dit j'accepte. Et à la fin, ils s'entendent sur une paix de 10 ans. Et à ce moment même, après avoir signé, le fils de Souhaïb ibn Amr, Abu Jandal, arrive les mains enchaînées. Il venait de quoi? De quitter sa cellule. Il avait rejoint les musulmans. Et Souhaïb ibn Amr, son père, dit on va commencer à mettre en pratique, en application, les clauses du traité. Maintenant, vous renvoyez mon fils avec moi. Et Abu Jandal dit comment, prophète? Tu vas me renvoyer chez mes bourreaux? Il lui a dit oui, Abu Jandal, j'ai signé. Et l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, individuel. Et il va repartir chez ses bourreaux. Mais ce que voulait le prophète, c'est la paix. Et c'est vers quoi nous devons tendre. Et il faut que nous soyons prêts à faire des concessions, un pas en arrière, afin d'arriver à une situation de paix. Pourquoi? Parce que s'il y a la paix, il y a la liberté, les gens vont nous écouter. Les gens vont tendre l'oreille. Il va y avoir un échange, une atmosphère propice au dialogue. Tant qu'il y a des tensions entre nous, on n'arrivera pas à se faire connaître. Et sachez qu'en 2 ans, parce que la trêve va être rompue du côté mécois après 2 ans, en 2 ans, il y a eu, allez, je ne sais pas si j'exagère, si je dis qu'il y a eu 10 fois plus de conversions en 2 ans qu'en l'espace d'une vingtaine d'années. Il y a eu un prêche pendant 20 ans, mais en état de guerre. Pendant 2 ans, l'état de paix, il y a eu plus du décuple. Hein, et Annie, c'est un phénomène qui a décuplé les conversions à l'islam. C'est-à-dire que l'islamophobie, à la quoi elle a perdu du terrain quand il y a eu la paix. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre. Sachez que l'élite qui crée l'islamophobie, on ne peut pas non plus les mettre tous dans le même sac. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont islamophobes, mais il y a des degrés d'islamophobie. Il y a des gens qui ont une haine envers l'islam, mais parfois les moindres. C'est-à-dire qu'il faut également hiérarchiser les islamophobes, ne pas les mettre sur le même pied d'égalité. Parce que certains, quand ils vont voter, disent ils sont tous islamophobes. Tous les candidats sont islamophobes, pourquoi voter pour eux, ça sert à rien. Non, notre politique, c'est la politique du moins pire. Celui qui est le moins pire à nos yeux, nous devons le choisir. Parce que si nous ne le choisissons pas, ça sera peut-être le pire qui passera. Et donc on sera perdant. Et sachez que parmi les notables de la Mecque, il y avait Abu Lahab, un grand ennemi du prophète, le plus grand islamophobe. Mais il y avait aussi son oncle Abu Talib, qui faisait partie des notables de la Mecque, et qui n'a pas cru en lui, mais il l'a protégé. À tel point que le prophète a dit, Quraysh, mon peuple, n'a pu me faire du mal, quelque chose qui me fait du mal, qu'après la mort de mon oncle. C'est-à-dire qu'il a été sous la protection de son oncle, il a profité de cette élite en choisissant celui qui allait être le plus conciliant avec lui. Il ne faut pas qu'on se fasse des ennemis, il faut qu'on se fasse des amis. Donc, faites très attention, nous sommes tous manipulés dans cette société afin d'éprouver de la haine envers nos concitoyens. Il faut dépasser cette manipulation, il faut la comprendre la dépasser et la combattre. Je répète que le rapport que nous devons adopter avec nos concitoyens, c'est un rapport amical, un rapport fraternel, un rapport humain, un rapport citoyen. Notre rapport avec les islamophobes au pouvoir, c'est un rapport de force, mais de force intelligente, c'est-à-dire il faut que nous ayons une force intellectuelle, politique, médiatique, économique, afin d'être leur égal et afin de pouvoir discuter avec eux à armes égales, ou sinon on sera toujours écrasé. Voilà. Et bien entendu, comme nous l'a très bien dit un auditeur, il faut que nous soyons au préalable unis. Il faut qu'on s'entende et qu'on règle notre problème interne afin d'être fort. Wallahu a'lam.
Barakallahu fik Othman pour ton intervention. Intervention ô combien très importante et très intéressante. Merci aussi à nos auditeurs et à nos auditrices de nous avoir suivis. Il est 22h passées de 3 minutes. L'émission de la prophétie se termine pour aujourd'hui.
Barakallahu fik Mohamed pour ton animation. Othman, on aura le plaisir, inchallah, de se retrouver très prochainement. Hein. On va te laisser retourner à tes fins de formation et inchallah, quand tu seras beaucoup plus disponible, on espère t'accueillir à nouveau avec plaisir sur les ondes de Pastel FM au cadre de nos émissions La Prophétie.
Avec plaisir.
Baklaw fik Othman. Bon, on va rendre l'antenne comme tu l'as dit.
On va rendre l'antenne de l'actualité, Aïssa. Peut-être un message à passer.
Tu as un petit message?
Ouais, peut-être un petit message à passer. Je pense que Hamza aurait voulu qu'on parle un petit peu de la situation de cette famille de Rome située à Tourcoing, juste à proximité de Mercure.
L'hôtel de Mercure, Beauvoir-Gambetta, à l'entrée, c'est limite au Roubaix-Tourcoing.
Voilà, donc
dans la grande détresse.
Exactement. Donc, bon, faut pas oublier que l'hiver se prolonge un petit peu. Les gens sont dans les détresses, des personnes qui dorment dehors. Donc, il y a un appel, bah, clairement, au don de vêtements pour adultes, pour enfants. Les personnes qui désirent s'y rendre,
Ils vont directement sur place. S'ils ont des habits à leur distribuer, qu'ils y aillent. En tout cas, effectivement, on est le Barakallahu fik Mohamed. On pose comme relais hein, pour l'appel de Hamza et pour ces personnes-là. Barakallahu fik.
Voilà, assalamu alaikum.
Allez, à vendredi prochain, Inch'Allah, sur les ondes de Bastel FM, l'émission La Prophétie, 20h-22h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.